Alors, Genèse 15, verset 6. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Le passage suivant, c'est dans l'Épître de Paul aux Romains, premier chapitre, versets 16 et 17. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Également dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, les versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Puis dans l'Épître de Paul aux Galates, troisième chapitre, versets 1 à 11. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi.
Sans Christ, la foi est vide comme un verre sans eau. Sans Christ, la foi est vide comme un verre sans eau. De même, sans le Saint-Esprit, nous resterons vides ce matin. Eh bien, nous comptons sur son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Et dans cette année qui marque les 500 ans de la Réforme, nous voulons souligner que c'est un souvenir qui a de l'avenir. C'est pas juste quelque chose du passé, c'est quelque chose qui, en fait, va nous aider à entrer dans le futur. Nous parlons de la Réforme non parce que c'est notre fondement ou notre référence, mais parce que c'est un puissant indicateur vers notre fondement et notre référence sur lequel nous bâtissons notre avenir. Donc ça, on l'a développé déjà la dernière fois. Et ce fondement, cette référence, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le centre de l'histoire de l'humanité, qui est venu marquer ce centre de l'histoire de l'humanité. La réforme, c'est un point de repère utile, un poteau indicateur qui remet les valeurs des notions centrales concernant le salut. Le salut, c'est le centre des cinq vérités, de cinq vérités remises en valeur lors de la réforme que nous appelons les solas. On avait vu que c'est du latin, parce qu'à l'époque, ce n'était pas l'anglais, c'était le latin, le langage international. Donc le premier, le sola scriptura, indique que la seule référence fiable, le seul fondement, la seule autorité en matière d'explication du salut, c'est l'Écriture, c'est la Bible. Et c'est ce que nous avons développé le premier dernier dimanche du mois en janvier. Le sola fide, donc par la foi seule, indique le moyen de saisir le salut. C'est par la foi seule que nous saisissons le salut. Les œuvres n'y contribuent pas, elles en découlent. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. La sola gratia, par la grâce seule, indique en fait le moyen utilisé par Dieu pour accorder le salut. C'est par la grâce seule. Le solus Christus, donc par Christ seul, indique l'auteur et le seul médiateur pour le salut. Jésus-Christ devenu aussi homme. Et la soli Deo Gloria, qui pour moi quelque part est le premier élément, le dernier qui les entoure toutes bien sûr, indique le but, la raison du salut. C'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu opère le salut, c'est pour sa gloire. Tout est centré sur Dieu. Et j'aime bien dire, si quelqu'un cherche le centre de l'univers, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le soleil, c'est Dieu. C'est Dieu, le centre de l'univers. Et tous ces sola continueront à être développés les derniers dimanches du mois jusqu'au mois de mai. Sola fide, par la foi seule, ou plus précisément, justifié par la foi seule. Il a été dit de dire de cette manière dans l'histoire que l'Église tenait ou s'écroulait sur cette doctrine de la justification par la foi seule. C'est une doctrine clé, un fondement, une base. Alors c'est vrai que certains attendaient peut-être de cette série sur les solas que je parle des controverses qui ont amené les réformateurs à réagir il y a 500 ans. Mais en fait, j'ai choisi de plutôt présenter les vérités bibliques qui ont été remises en valeur à cette période. Alors parfois dans le développement, nous retrouvons quelques traces de ces erreurs qui ont été contrées par les remises en valeur de ces vérités. Mais j'ai un but en fait dans cette manière de faire. Et le but dans cette manière de faire est de nous apprendre à d'abord présenter la vérité avant de dénoncer le mensonge. Ne pas s'appuyer sur l'erreur pour apporter la vérité, qui en fait n'a pas besoin de l'erreur pour être apportée. Alors comprenez-moi bien, je trouve utile et important de corriger ce qui est faux, et cela doit se faire. Mais cela doit se faire en ayant préalablement poser les fondements de la vérité. Voilà pourquoi cette démarche dans ces prédications des solas. Donc ceci dit, abordons ce sujet central du christianisme biblique, la justification par la foi seule. Et au menu, en fait, nous allons simplement chercher à comprendre cette phrase, tout simplement, justification par la foi seule. Alors nous parlerons donc, pour commencer, de la justification, ensuite de la foi, et nous terminerons par le terme « seul ». C'est les trois points, c'est très facile à retenir. Justification, foi, seul. C'est les trois choses que nous allons développer ensemble. Alors la justification, c'est quoi la justification? Alors moi j'aime bien, il existe des chants pour les enfants, qui s'appellent Songs for Saplings, qui reprennent en fait les questions du petit catéchisme de Westminster et qui les mettent en chanson. Et j'aimerais vous prendre un petit chant, je ne vais pas vous le chanter, juste vous le lire, hein, mais qui explique, qui répond à cette question. Le petit chant va comme ceci. C'est quoi la justification? Donc c'est dans le chant. Hein. C'est quoi la justification? La justification, c'est Dieu qui pardonne toutes mes fautes et qui me déclare être juste. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, verset 1. Fin de la petite chanson. Je vais peut-être vous la relire, comme ça on a un petit peu en tête. Hein. C'est quoi la justification ? La justification, c'est Dieu qui pardonne toutes mes fautes et qui me déclare être juste. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Voilà, on a déjà posé un petit peu une base. Mais pourquoi avons-nous besoin d'être justifiés ? C'est une première question importante. Pourquoi avons-nous besoin d'être justifiés ? Eh bien, je vais le dire très clairement, très directement, sans passer par des détours. Parce que nous sommes condamnés. Nous sommes sous le jugement de Dieu. Voilà, parce que nous sommes condamnés, nous sommes sous le jugement de Dieu. Il est écrit dans Jacques 2, 10, « Quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. » Si quelqu'un n'a jamais menti, a toujours respecté la propriété des autres, a tout fait juste dans sa vie, mais qu'il a tué une personne, il va être arrêté et mis en prison. Tout le bien qu'il a fait n'enlèvera pas cette faute. Tout le bien que vous faites ne peut effacer vos fautes. Tout le bien que vous faites ne peut effacer vos fautes. Ce n'est pas comme dans un jeu vidéo où lorsque vous réussissez un niveau, vous recevez des vies. On réussit un niveau, on reçoit des vies. Mais vous ne pouvez pas les utiliser dans la vraie vie. C'est comme les bonnes choses que vous faites. On ne peut pas effacer nos fautes. Faire le bien, ce n'est pas un moyen de paiement. Faire le bien, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. C'est normal. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Ce n'est pas faire quelque chose de plus, faire le bien. C'est faire ce qui est normal. Et celui qui fait le mal, premièrement, n'a pas fait le bien pendant le temps où il a fait le mal. Il se met donc dans une dette, hein, du bien qu'il était censé faire. Mais en plus, le mal appelle une punition s'il y a une justice. Ceci signifie qu'en plus de la dette à rembourser, parce que le temps où on fait le mal, ben, ça devient une dette puisqu'on devait faire le bien, eh bien il faut payer en plus une amende. Alors si... Ça, c'est une question que je vous pose, hein, ou qu'on peut réfléchir. Si vous avez fait le mal dans votre vie, si ça arrivait une fois, eh bien, vous savez que vous avez une dette envers Dieu, et généralement aussi envers les autres, car souvent le mal touche aussi les personnes autour de nous. Alors, est-ce que l'on peut rembourser cette dette envers Dieu ? On vient de voir que faire le bien ne rembourse rien. Faire le bien, c'est normal, c'est ce que Dieu demande. Donc, si nous sommes arrêtés, et placés devant le tribunal de Dieu, nous sommes tous et sans exception déclarés coupables. Alors ça, ce n'est pas parce que je vois dans vos cœurs, n'ayez pas de crainte. Ça, c'est parce que la Bible le dit. Il est écrit dans Romains 3, versets 10 à 12, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. » Quand on parle de « nul est intelligent », ce n'est pas qu'on ne peut rien faire. Intelligent selon Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous avons donc besoin d'être justifiés. Et nous ne pouvons pas l'être par nous-mêmes. Donc nous avons besoin que cela vienne d'ailleurs. Donc pourquoi avons-nous besoin d'être justifiés ? Eh bien parce que nous sommes condamnés et sous le juste jugement de Dieu. Maintenant, comment est-il possible d'être justifié ? Comment quelqu'un peut-il être libéré de sa dette ? Deux possibilités. Soit il la rembourse, et lorsqu'il donne le dernier centime, il est déclaré sans dette. Ça va, on comprend ça, hein ? Ou bien deuxième possibilité, soit c'est quelqu'un qui rembourse, et lorsque son ami a donné le dernier centime, celui qui avait une dette est déclaré sans dette. Cela signifie que lorsque le paiement est effectué, la personne qui est endettée est déclarée non endettée, quelle que soit la personne qui a payé. Donc ça signifie que lorsque le paiement est effectué, la personne qui est endettée est déclarée non endettée. Puis c'est égal qui a payé. La dette est payée. Donc nous avons compris tout à l'heure que nous ne pouvons pas payer pour nos fautes. Notre dette envers notre Créateur ne peut en fait qu'augmenter. On ne peut pas la diminuer. On ne peut que l'augmenter. Nous avons donc besoin de quelqu'un pour payer cette dette. Et c'est uniquement une personne qui n'a pas de dette elle-même et qui a une portée infinie qui peut payer une si grande dette.
Voyez où je veux en venir.
Ou peut-être pas. Or, pour ceux qui voient où je veux en venir, il va dire tout de suite que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre, qui est éternel et qui n'a jamais péché, qui peut payer cette dette. Et vous avez raison. C'est ça. Il est sans dette devant Dieu. Donc il peut payer la dette pour d'autres. Et Jésus a payé en donnant ce qu'il a le plus précieux et ce que coûtait en fait le péché. Vous savez ce que coûte le péché? Quelle est la punition, la condamnation pour celui qui pêche? C'est la mort. C'est écrit dans Romains 6, 23. Hein? De nouveau, vous ne devez pas croire ce que je dis. Je suis un transmetteur. Donc je dis ce que la parole de Dieu dit. Et Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et Jésus a donné sa vie parfaite pour payer la dette de vie, ou de mort si vous voulez, de ceux qu'il est venu effacer la dette. Donc Jésus a indiqué le moyen de recevoir cette dette. Quel est le moyen de le recevoir? Eh bien, c'est de croire en lui. Cela signifie regretter et se détourner de ses fautes et avoir confiance que ce qu'il a payé est suffisant. Comme lorsque vous donnez l'argent à votre petit garçon qui va acheter la viande à la boucherie. Il vous fait totalement confiance. Il ne va pas travailler et se dire « faut que je mette encore un peu d'argent pour que si jamais il y ait assez quand je vais chez... » Mais non, vous lui donnez l'argent, il va à la boucherie, et le boucher lui donne la viande, il donne l'argent, il a totalement confiance, puis il se rend même compte qu'il y a assez d'argent, voire même un peu plus. Eh bien, c'est de même, lorsque nous arriverons devant Dieu, nous verrons que le prix payé par Christ était suffisant, même au-delà, pour nous sauver. Eh bien, comment est-il possible d'être justifié? Eh bien, lorsque quelqu'un paie pour nous, suffisamment pour que la dette soit couverte, évidemment, eh bien, le juge nous déclare juste. Bon, on a compris pourquoi nous devons être justifiés, comment est-ce qu'il est possible d'être justifié. Mais alors, quand est-ce que cette justification est effective? Eh bien, la justification n'est pas un processus. La justification n'est pas un processus. Au moment où il présente l'acquittement de sa dette, celui qui est endetté est déclaré sans dette. À ce moment-là, ça ne prend pas quelques semaines. On ne lui dit pas qu'il est encore un peu endetté, puis ensuite encore un peu moins. Non. Quand il présente en fait l'acquittement de la dette, il est déclaré sans dette. Voilà. Ce n'est pas un processus. C'est une déclaration et cela est fait. Hein. Dès qu'il est déclaré sans dette, c'est le cas. La justification est une déclaration légale. Lorsque le juge prononce le mot que tout le monde attend avec anxiété, hein, et lorsqu'il dit non coupable, c'est immédiat. Il n'y a pas besoin d'attendre encore une semaine ou deux. Il dit non coupable, il est non coupable. Alors, une chose importante encore que je ne vais pas développer, mais qui est important de dire ici, la justification ne change pas la nature de la personne, mais le statut. Ça, c'est un élément important. Là, je pourrais développer longuement, justement, en vous montrant toutes les problématiques lors de la réforme, justement. Mais comme ça, vous pouvez peut-être aller chercher. La justification ne change pas la nature, mais le statut. Le chrétien est donc élevé à un rang où il peut, en conséquence, jouir des privilèges divins tels que la rédemption, l'adoption divine, la sanctification, la glorification ou encore l'union avec Christ, parce qu'il a ce nouveau statut. Et combien de temps dure ce statut? Eh bien, lorsque le juge déclare non coupable, lorsque tout est payé, est-ce que le juge, plus tard, va dire « Ah non, je pense que je vais le déclarer non coupable ». Ben non, s'il est juste, il ne peut pas revenir en arrière, parce qu'il doit dire la vérité. Et la vérité, c'est que la personne est non coupable. On pourrait dire que la justification, qui est une déclaration, c'est la porte par laquelle on entre dans la vie chrétienne. Et que lorsqu'on entre dans cette vie chrétienne, eh bien la sanctification, qu'on peut parler comme une infusion, est le chemin dans cette vie.
Il y a deux parties dans la sanctification. Je ne vais pas m'étaler trop, mais il y a cette partie qu'on la reçoit complètement déjà par Christ et que dans notre pèlerinage ici-bas, nous sommes en progression dans ce cheminement de la sanctification. Nous pourrions utiliser l'image du mariage. Lorsque quelqu'un se marie, dès qu'il signe les registres de l'état civil, il devient mari et épouse. Voilà, il est mari et épouse. Mais il va prendre des années pour apprendre à devenir vraiment un mari et une épouse. Mais au moment où il a signé, c'est fait. C'est une déclaration légale. Dès la signature, il est appelé époux. C'est ce qu'on appelle la justification, hein, pour l'analogie. J'espère qu'avec ces quelques explications, vous comprenez mieux ce qu'est la justification. C'est une déclaration légale qui indique le statut non coupable. Ça, c'est la justification. Comment maintenant saisir cette justification que Jésus a accomplie de manière passive en subissant la peine que nous devions subir et de manière active en vivant parfaitement, hein. Passivement, il a vécu la culpabilité, c'est-à-dire tout ce qu'on devait payer comme punition, si vous voulez, de ne pas avoir vécu le bien. Et de manière active, il a vécu le bien que nous aurions dû vivre et il nous le donne. Le mot d'ordre du jour, c'est donc la justification par la foi seule. Sola fide. Il s'agit donc de la foi pour saisir ces justifications. Et nous allons voir maintenant ce moyen de saisir la justification. La foi, c'est quoi? Ben, on va revenir avec une petite chanson. Hein? Parce que dans ces chansons, il y a aussi la chanson qui commence par « La foi, c'est quoi ?» ou « C'est quoi la foi en Christ ?» Alors, je vous lis la petite chanson. C'est quoi la foi en Christ ? La foi en Jésus, c'est mettre sa confiance en lui seul pour être sauvé. Philippiens 3, verset 9. La justice qui vient de Dieu vient de la foi en Jésus-Christ, non par une justice que j'aurai en moi-même, en obéissant à la loi, mais par celle qui vient de la foi en Jésus-Christ. Voilà la petite chanson. Allez, je vous la relis. Il faudrait qu'on la chante une fois, hein. C'est quoi la foi en Christ ? La foi en Jésus, c'est mettre sa confiance en lui seul pour être sauvé. Philippiens 3, 9. La justice qui vient de Dieu vient de la foi en Jésus-Christ. Non pas une justice que j'aurai moi-même en obéissant à la loi, mais par celle qui vient de la foi en Jésus-Christ. On va un peu parler de cette foi, justement. Et certains disent que la foi commence là où la raison s'arrête. Vous avez déjà entendu ça? C'est faux. Si vous entendez cette phrase, la foi commence où la raison s'arrête, c'est faux. Nous ne parlons pas d'une foi naïve, sans fondement solide, un saut dans le vide, comme on dirait parfois. Non. Nous parlons d'une foi qui s'appuie sur un témoignage historique solide. Nous parlons d'une foi qui s'appuie sur un témoignage historique solide que j'appellerais digne de foi. J'aime dire que nous avons une foi raisonnée, ce qui veut dire que ce n'est pas une foi sans réflexion, mais qui s'appuie sur de solides fondements. Et ces fondements, le fondement principal, c'est le sola scriptura. C'est vrai qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas, que l'on ne peut pas expliquer, mais il y a une part de confiance, comme dans toute relation. Et chacun, même ceux qui parlent de la foi qui s'arrête ou la raison, qui commence là où la raison s'arrête, eh bien, ont aussi des confiances dans des personnes autour d'elles sans tout comprendre. Mais nous avons beaucoup d'explications. Et d'ailleurs, ce matin, nous tentons de donner quelques éléments de ces explications que Dieu nous donne. Donc, la foi s'appuie sur un témoignage historique solide. Certains disent que la foi, c'est insuffisant. Franchement, juste avoir la foi, c'est insuffisant. Mais nous ne parlons pas d'une foi mystique non définie. Nous parlons d'une foi qui s'appuie sur l'œuvre de Christ, sur des promesses compréhensibles, réelles de Dieu, du Dieu Tout-Puissant qui peut absolument tout faire ce qu'il veut et qui se fait connaître par sa révélation. Cette foi est suffisante parce qu'elle ne compte pas sur elle-même, mais sur celui en qui elle place sa confiance. Comprenez ? Si avec la foi, bien sûr qu'elle ne serait pas suffisante. Mais la foi, cette foi, elle est suffisante parce qu'elle ne compte pas sur elle-même, mais sur celui en qui elle place sa confiance. Certains disent encore, et je l'ai entendu quand même à maintes reprises, peut-être vous aussi, la foi, c'est trop facile. Ce serait trop facile. Vous avez déjà entendu ça? En fait, je vais juste traduire ce que ça veut dire, parce qu'il y a des choses derrière cette phrase, en fait. Par exemple, un des sens cachés, c'est que la foi, c'est injuste. T'imagines quelqu'un qui a fait tant de mal, il croit et puis il est sauvé. C'est trop facile. C'est injuste, en fait. Mais où est l'injustice de croire qu'un ami a payé votre dette lorsqu'il l'a fait? Où est l'injustice? Il n'y en a pas. Il y a de la grâce, c'est vrai. Il n'y a pas d'injustice. Ou d'autres, quand ils disent la foi c'est trop facile, ils disent mais en fait c'est humiliant. J'aimerais mieux faire un exploit que de juste croire. Eh bien l'humilité, c'est vrai. La justification par la foi seule enlève totalement toute possibilité de se vanter de quoi que ce soit, de s'enorgueillir d'une action quelconque. Jésus a tout accompli. C'est vrai. Et le chemin du salut passe par l'humilité. Et la foi est un instrument choisi par Dieu pour nous rendre humbles, en fait. La foi est un instrument choisi par Dieu pour nous rendre humbles. Il est écrit dans Romains 3, 27, où est donc le sujet de se glorifier? Ça, c'est la question, puis il y a une réponse. Il était exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. C'est Romains 3, 27. Et voici comment quelqu'un a exprimé cette notion d'humilité en parlant de la foi. Alors, je vais lire deux fois cette phrase, elle est intéressante. La foi, c'est accepter d'être accepté en dépit du fait que l'on soit inacceptable. Vous comprenez pourquoi je vais vous la relire. Hein? Donc, la foi, c'est accepter d'être accepté en dépit du fait que l'on soit inacceptable. C'est ça, la foi. La foi humble. La foi, c'est faire entièrement confiance, une confiance agissante, comme celle d'un enfant qui se jette dans les bras de son papa, car il est sûr qu'il va le rattraper. Ce n'est pas un saut dans le vide. C'est ce qu'on dit des fois. Un enfant, il saute, c'est un saut dans le vide. Ben, s'il n'y avait que du vide, il ne sauterait pas. Non. Cet acte est motivé par la confiance en l'action de son Père bienveillant. C'est ça la foi. Et que fait la foi? Est-ce que c'est la foi qui fait que l'enfant ne tombe pas par terre? Ben non, c'est le fait que son père le rattrape. Ok? Eh bien, dans le salut, il en est de même. Ce n'est pas ma foi qui me sauve, mais c'est Jésus-Christ en qui je place ma foi. C'est comme lorsque je bois un verre de jus d'orange. En fait, lorsque je bois un verre de jus d'orange, je le prends avec ma main. Et je l'amène à ma bouche. Sans ma main, le verre ne viendrait jamais à ma bouche. D'accord? Mais ce n'est pas ma main qui me donne les vitamines. C'est le jus d'orange. Quand je bois du jus d'orange, je prends ma main, je le prends avec ma main, hein, je l'amène à ma bouche. Sans ma main, le verre ne viendrait jamais à ma bouche. Mais ce n'est pas ma main qui me donne les vitamines, c'est le jus d'orange. Eh bien, de même, la foi saisit le salut et l'amène dans ma vie. Ce n'est pas ma foi qui sauve, c'est l'œuvre de Christ qu'elle saisit. Ce n'est pas ma main qui me donne les vitamines, c'est le jus d'orange qui est saisi par ma main. Voilà ce que fait la foi. Et sur quoi repose cette foi? Eh bien, comme nous venons de le dire, cette foi s'appuie sur l'œuvre de Christ, sur sa justice, c'est pas ma propre justice. La foi dont il est question n'est pas simplement adhérer à une réalité, de croire, ok, c'est vrai, hein? Comme par exemple croire que Dieu existe. Ça ne sauve pas de croire que Dieu existe. Il est de réécrit dans Jacques 2, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. La foi, c'est s'approprier l'œuvre de Christ. C'est dire, Jésus-Christ est mort à la croix pour payer mes péchés. Il a vécu parfaitement pour me revêtir de sa perfection. Je crois, j'ai confiance dans que son œuvre est suffisante pour me présenter devant Dieu. Ça, c'est la foi qui sauve. Un démon ne dira jamais ça. Hein. Il dira juste, Dieu, il existe, et puis il tremble. La foi, c'est s'approprier. Notre foi repose sur la justice satisfaite de Dieu. Jésus, par sa vie parfaite et sa mort comme victime expiatoire, a rendu Dieu propice envers nous. Il a tout payé. Et nous encore bien plus... il nous donne voilà, encore bien plus afin que nous donnions à notre tour. C'est une petite phrase que vous avez sur vos feuilles, je la relis. Notre foi repose sur la justice satisfaite de Dieu. Jésus, par sa vie parfaite et sa mort comme victime expiatoire, a rendu Dieu propice envers nous. Et il a tout payé et nous donne encore bien plus afin que nous donnions à notre tour. Je vous en prie un moment pour parler de la foi et j'espère que vous saisissez un peu mieux ce que signifie dans le contexte de la justification par la foi seule. La foi, c'est comme un bras qui saisit le salut accompli par Jésus-Christ. Donc quand vous entendrez justification par la foi seule, eh bien justification, déclaration légale que vous êtes non coupable, par la foi, le bras qui saisit le salut en Jésus-Christ, et il reste encore à parler de ce dernier terme, seul, sola. La justification par la foi seule. Comment ça seule? Vous savez, lors de la réforme et jusqu'à aujourd'hui, cette expression a incité de nombreuses personnes à s'opposer à cette doctrine. C'est ce petit mot qui pose problème. D'ailleurs, le Concile de Trente a condamné sola fide à cause de ce terme seul. C'est un élément principal qui a donné la condamnation de cette doctrine. Et ce que les opposants insinuent, c'est que cela signifie une foi sans engagement, une foi sans loi, une foi sans mise en pratique, une foi sans imitation du modèle. En fait, ils parlent de cette foi morte dont il est question dans Jacques. Ils disent, voilà, la justification par la foi seule, c'est simple, c'est voilà, une adhérence, mais sans aucun engagement. Mais nous ne parlons pas de cette foi. Nous parlons d'une foi vivante, une foi agissante, une foi conséquente, une foi réelle, hein, une foi qui a tellement confiance en Dieu qu'elle applique ce que Dieu demande. Ça, c'est la foi dont nous parlons lorsque nous disons « justifié par la foi seule ». La question est donc quel est le rôle des œuvres dans la justification de la foi seule? Y en a-t-il? Y en a-t-il pas? Pourquoi? J'aimerais voir avec vous trois vérités fondamentales sur ce sujet. La première, une première vérité, c'est qu'aucune œuvre ne peut produire ou obtenir ou améliorer la justification. Aucune œuvre ne peut produire, obtenir ou améliorer la justification. Jésus-Christ a tout accompli, il a tout payé, on ne peut pas payer en plus. On ne peut pas payer pour lui, ce n'est pas possible. On a vu qu'on ne pouvait pas payer notre dette. Il est écrit dans Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. C'est clair, c'est vraiment expliqué clairement. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le seul qui peut se glorifier, c'est Christ. Cela aide à comprendre, à clairement comprendre, explique le mot « seul ». Nous sommes sauvés par la foi « seul ». Car c'est uniquement par la foi en l'œuvre de Christ que l'on peut saisir le salut. Nos œuvres pour la justification, si on cherche à en faire, eh bien c'est comme l'argent du jeu du Monopoly. Même si vous en avez beaucoup, ben vous ne pouvez pas aller à la boulangerie du coin acheter du pain, ni payer vos achats dans un magasin. C'est uniquement avec l'argent réel, l'argent d'un homme-Dieu parfait, qu'il est possible de payer. C'est uniquement par la foi que nous saisissons l'œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ. Nos œuvres pour la justification, c'est comme l'argent du Monopoly que vous chercheriez à utiliser dans les magasins. Donc la première vérité, c'est qu'aucune œuvre ne peut produire, obtenir ou améliorer la justification. Deuxième vérité, c'est que les œuvres ne produisent pas la foi. Les œuvres ne produisent pas la foi. C'est la foi qui est à l'origine des œuvres selon Dieu. Et non le contraire. C'est comme la mère donne naissance à l'enfant et pas l'inverse. Un enfant ne peut pas donner naissance à sa propre mère. Évident. Eh bien, comme les œuvres ne peuvent pas produire la foi. Comprenez-moi bien. Je parle de l'origine, du point de départ, de la chronologie. Il est bien entendu qu'une foi présente, la foi produit des œuvres, et est encouragée, fortifiée par les œuvres, est éprouvée par les œuvres, et ne peut pas exister sans les œuvres. Ça nous amène à la troisième vérité. C'est que la foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas la foi qui sauve. La foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas la foi qui sauve. Il est écrit dans Jacques 2,17, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Et lors de la réforme, on avait l'habitude de dire « justifié par la foi seule, mais la foi n'est pas seule. » Elle est accompagnée de la manifestation de cette foi dans les œuvres qui attestent qu'elle est réelle. Justifié par la foi seule, mais la foi n'est pas seule. Si l'on dit, par exemple, pour illustrer, que la foi est un enfant. Ok, la foi, un enfant. S'il ne respire pas, s'il ne mange pas, même s'il a reçu la vie, il ne peut pas vivre. Il en est de même pour la foi sans les œuvres. C'est comme un enfant à qui la vie a été donnée, qui ne respire pas, qui ne mange pas. Les œuvres ne changent pas le fait que la vie soit donnée et que c'est un enfant, qu'il a une identité, qu'il a reçu tel ou tel prénom, qu'il est né en Suisse ou ailleurs. Ça ne change rien. Ses actions ne vont rien changer à cela, comme le salut ne dépend pas des œuvres. Par contre, ses œuvres seront influencées par sa personnalité, par ses capacités, et il va pouvoir utiliser ce qu'il a reçu. Il pourra respirer, manger, boire, chanter, parler, travailler, aider, aimer, et tant d'autres œuvres qui manifestent qu'il est en vie. Comment répondre alors à la question « Quel est le rôle des œuvres dans la justification par la foi ?» Eh bien, les œuvres sont une manifestation visible et bienfaisante d'une foi réelle. Les œuvres sont une manifestation visible et bienfaisante d'une foi réelle. Et chaque chrétien est appelé à les vivre avec la capacité et le temps que Dieu lui donne. Des fois, on a beaucoup de temps, des fois, on en a peu. Et je vais vous parler de quelqu'un qui en a eu peu ou pas. Il a quand même été sauvé. C'est le brigand qui s'est repenti sur la croix. Il n'a pas eu le temps de faire une seule œuvre. Et pourtant, Jésus a dit qu'il serait avec lui le jour même dans le paradis. Je vois en face de moi des gens qui ne sont pas sur une croix, qui ne sont pas en train de mourir. Donc, nous avons plus de temps que le brigand. Donc, nous pouvons agir, manifester la vraie foi par des œuvres qui glorifient Dieu et qui démontrent que petit à petit, nous mourrons à nous-mêmes pour vivre totalement pour Dieu. Et là, la question que vous pouvez prendre aussi avec vous, est-ce que ce que je vis confirme que j'ai la foi? Est-ce que ce que tu vis confirme que tu as la foi? Ta façon de vivre, d'aborder les difficultés ou les joies, de prendre des décisions, de réagir face aux situations de la vie, est-ce que tu vois ta foi active et en progression? Question importante. Parce que si c'est le cas, eh bien réjouis-toi et glorifie l'Éternel qui t'a donné la vie et continue à progresser dans cette foi vivante en comptant sur le secours de Dieu. Mais si tu ne vois pas cette foi active, eh bien arrête-toi et réfléchis. C'est une question de vie ou de mort ici. Arrête-toi et réfléchis. Et s'il n'y a pas cette foi, il y a un moyen d'entrer dans ce chemin de foi. C'est de se repentir de ses péchés, de croire que Christ a tout accompli. Et nous entrons dans cette justification, vous savez ce que c'est, la justification, et nous entrerons dans ce chemin de vie dans lequel nous pourrons manifester cette foi par des actes d'obéissance à ce que Dieu nous ordonne dans sa parole. Et le premier acte d'obéissance qui manifeste que nous sommes croyants, eh bien c'est le baptême. C'est visible. Et ensuite, eh bien, nous vivons notre foi dans le quotidien, dans chaque domaine. C'est ainsi que par la foi seule, nous saisissons la justice de Christ et que nous sommes déclarés justes. Alors j'espère que ces quelques considérations ont permis de mieux comprendre pourquoi nous disons « par la foi seule ». En conclusion, il est écrit dans Habacuc 2, verset 4, écoutez bien, c'est dans Habacuc, Ancien Testament, prophète, hein, il est écrit « Le juste vivra par la foi. C'est ce qui est écrit dans Habacuc 2:4. Il est écrit dans Genèse 15:6, nous l'avons lu tout à l'heure, Abraham crut en l'Éternel et le lui compta comme justice. Et nous avons lu des textes dans Romains, dans Galates, et nous pourrions lire, nous avons aussi lu dans Éphésiens, etc., que toute la Bible, en fait, enseigne que nous sommes sauvés par la justification, par la foi. Le sola fide différencie la foi biblique des autres religions qui prescrivent des œuvres ou des rites dans l'optique d'améliorer l'homme afin qu'il participe à son salut. Le sola fide, c'est pas ça. Déclaré juste par l'œuvre de Christ. Et c'est une foi active qui va manifester cette œuvre par un cheminement dans notre vie où nous grandissons et progressons, que nous appelons la sanctification. Sola fide, c'est Christ mon salut et rien en moi-même. Il a tout fait pour que je sois justifié, je n'ai rien à y ajouter. Nous ne pratiquons donc pas les œuvres pour être sauvés, mais nous pratiquons les œuvres parce que nous sommes sauvés. C'est diamétralement opposé. Vous savez pourquoi ? Parce que si nous pratiquons les œuvres pour être sauvés, eh bien notre motivation à faire des bonnes œuvres, c'est quoi ? C'est de gagner quelque chose. Tandis que si nous pratiquons des œuvres parce que nous sommes sauvés, nous n'avons rien à gagner. En fait, nous le faisons par amour. Et nous allons saisir et chercher la force de l'amour dans celui qui nous a donné sa justice et qui nous manifeste son amour. Le sola fide, c'est le fondement d'un service motivé par l'amour et non pas par l'appât d'une rétribution, parce qu'on a déjà tout reçu par la foi. Christ est notre justice, il a tout accompli. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. C'est la foi, croire. C'est Romains 1, 16, 17, ce sera le passage pour le mois de mars que nous allons chercher à introduire dans nos cœurs de manière profonde et durable, où il est écrit « Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et puis quiconque, vous pouvez méditer ces textes. Du juif premièrement et du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Crois-tu cela? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, lorsque nous saisissons l'œuvre de Christ accomplie que nous pouvons saisir par la foi, nous ne pouvons que dire, c'est glorieux. C'est glorieux. Il y a tellement de conséquences à tout cela. Oh Seigneur, nous n'avons pas eu le temps de voir toutes ces conséquences. Mais permets à chacun de méditer cela, Seigneur. Que nous puissions saisir les conséquences de ce sola fide par la foi seule. Et particulièrement aussi celles que nous venons d'évoquer, que nous œuvrons non pas pour gagner quelque chose. Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que tellement souvent, nous faisons encore des bonnes œuvres pour gagner quelque chose. Seigneur, donne-nous cette attitude de vivre des bonnes œuvres parce que nous aimons, parce que nous avons reçu. Que Seigneur, nous n'ayons plus cette pression. Oh Seigneur, pardon pour les fois où nous nous mettons cette pression. Il faut que je fasse ça pour que tu me voies juste ou bon. Non. Aide-moi et nous, Seigneur, à faire ces bonnes choses parce que tu nous as donné ta justification. Nous n'avons rien à prouver, nous ne pourrions rien prouver. Christ l'a fait et nous pouvons entrer dans cette libération de réellement faire des bonnes œuvres par amour. Tu nous libères par cette compréhension de la justification par la foi seule. Tu nous donnes, Seigneur, cette paix d'être actif dans ton œuvre de la plus grande et de la meilleure manière possible, dans la paix. Permets, Seigneur, que nous puissions être libérés du poids de devoir faire quelque chose pour être sauvés. Et donne-nous la joie de manifester ce salut que Christ a accompli dans notre vie par des œuvres bonnes qui te glorifient. Oh Seigneur, nous te remercions parce que ce sola fide nous donne aussi une tellement grande assurance. Si c'était moi qui devais faire des œuvres, je ne saurais jamais si j'en ai fait assez. Mais Christ a payé bien suffisamment. Il n'y a rien à ajouter. Merci, Père. Merci pour cette déclaration que tu fais pour tous ceux qui croient. Et j'aimerais te prier que ce soit le cas pour chacun ici. Qu'il n'y ait pas ici quelqu'un qui reçoit la sentence terrible, éternelle, de coupable. Mais que chacun puisse un jour se trouver devant ton trône, et cela est certain, cela arrivera, et que nous puissions entendre tous ensemble, en nous réjouissant pour chacun personnellement, cette sentence merveilleuse, non coupable, dette payée. Ô sois loué et béni, Père, et remplis nos cœurs de ton allégresse et de ta reconnaissance. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.